Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 5 octobre 2016. Au sommaire ce soir.
En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a présenté son projet de nouvelle constitution au Parlement sur fond de contestation de l'opposition.
Ouagadougou, l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé est maintenu en détention pour 6 mois.
Report inédit des élections municipales au Niger.
Crise sociale au Tchad, la Confédération libre des travailleurs du Tchad pour proches du régime a rejoint la grève.
Le successeur de Ban Ki-moon à la tête de l'ONU pourrait être élu demain. L'ex-premier ministre portugais Antonio Guterres est favori.
L'économie et les sports.
Juste après le journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a présenté aujourd'hui aux députés le projet de nouvelle constitution. Ce texte sera soumis à référendum à la fin octobre, après son adoption par le Parlement. Le point avec Narita Namasté, journaliste à Abidjan.
Le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, a expliqué à l'hémicycle aux députés que la nouvelle constitution reprend les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, comme recommandé par l'accord de Limas-Maboussi, signé en 2003 en France par l'ensemble de la classe politique ivoirienne. C'est pourquoi Alassane Ouattara a invité les parlementaires à apporter des amendements afin de soumettre dans les plus brefs délais à référendum un projet majeur de constitution pour la Côte d'Ivoire.
Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable.
Dans ce projet de nouvelle constitution contesté par la majorité de l'opposition ivoirienne, il n'y a plus d'article 35, mais désormais un article 55 qui fixe les conditions d'accès à la candidature pour l'élection présidentielle. On peut se présenter au-delà de 75 ans et l'âge minimum requis est désormais de 35 ans. Narita Namasté, depuis Abidjan pour la VOA.
Au Burkina Faso, la détention préventive de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, a été prolongée de 6 mois à Bagassikoura.
Cela fait un an que Bassolé, ancien chef de la diplomatie, est en prison pour son implication présumée dans le putsch du 16 septembre 2015 contre le gouvernement de transition sous la pression populaire et l'intervention des forces loyalistes. Ce coup d'État avait échoué au bout d'une dizaine de jours. Le général de brigade de gendarmerie, Djibril Bassolé, a été interpellé le 29 septembre 2015 et détenu à la MACA, la maison d'arrêt de correction militaire. Il est poursuivi pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre des enquêtes sur ce coup d'État. Par ailleurs, la justice militaire burkinabé a demandé l'analyse par un expert indépendant des écoutes qui mettent en cause Djibril Bassolé et Guillaume Soro, le président du Parlement ivoirien, dans la dite tentative de putsch. Les avocats de Bassolé estiment que ces écoutes sont illégales.
Bagassikoura. Au Niger, les élections municipales initialement fixées à janvier 2017 ont été reportées sine die à l'issue d'une réunion des partis de la mouvance présidentielle. Cette décision est vivement dénoncée par l'opposition. C'est ce que nous dit Claire Moret-Gibourg.
C'est le Premier ministre Brigui Raffini qui a annoncé le report des élections locales initialement prévues le 8 janvier prochain. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour ce scrutin qui a déjà été reporté à 3 reprises. Le Premier ministre justifie ce nouveau report par la nécessité d'élaborer un fichier biométrique, ce qui ne permettrait pas de respecter la date prévue. Le Parlement a voté fin avril une loi pour prolonger de 6 mois les mandats de 5 ans des élus locaux qui ont expiré. Les partis d'opposition, dont le MoDem de Ama Amadou, ont aussitôt dénoncé une manœuvre dilatoire repoussant indéfiniment ces élections. L'opposition a également critiqué la récente nomination de Alkash Alahada, un militant connu du PNDS, le parti au pouvoir, au poste de premier président du Conseil d'État, l'instance qui tranche les contentieux électoraux pour les élections locales.
Toujours au Niger, l'Allemagne va construire une base militaire en appui à la mission militaire onusienne qui combat les djihadistes au Mali voisin. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur d'Allemagne à Niamey.
Conséquence de la situation politique en République démocratique du Congo, la Belgique a décidé de limiter à 6 mois maximum la durée des visas accordés aux responsables porteurs de passeports diplomatiques. Le mandat du président Joseph Kabila arrive à son terme le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Mais l'opposition l'accuse de manœuvrer pour rester au pouvoir.
Le président rwandais Paul Kagame a proposé aujourd'hui la nomination de Valentine Rugwabiza au poste de représentant permanent du Rwanda à l'ONU, mesure qui intervient après le limogeage d'Eugène Richard Gassana qui occupait cette fonction depuis 7 ans. Madame Rugwabiza était ministre en charge de la communauté des États d'Afrique de l'Est, avait occupé de 2005 à 2013 le poste de directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce et avait été ambassadrice du Rwanda auprès de l'ONU à Genève.
Trouble en Éthiopie, une ressortissante américaine a été tuée hier à Addis Abeba. Elle a été victime d'un jet de pierre sur un bus dans lequel elle voyageait. L'incident est intervenu lors d'une journée marquée par de multiples incidents dirigés contre le gouvernement et au cours desquels plusieurs entreprises étrangères ont été ciblées en région Oromo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ouragan Matthew, le plus puissant qu'ont connu les Caraïbes depuis une décennie, progressait aujourd'hui vers les côtes américaines après un passage destructeur sur Haïti, la République dominicaine et Cuba. Les détails avec Tatiana Mousseau.
Matthew a fait au moins 9 morts, 5 en Haïti et 4 en République dominicaine selon un bilan encore très provisoire. Il a ensuite touché l'est de Cuba avec des vents qui soufflaient toujours à 220 km/h. L'ouragan a été rétrogradé d'un cran à une catégorie 3 par les services de surveillance des ouragans américains. Bien que moins puissant, il affiche encore des vents extrêmement forts. Aux États-Unis, les gouverneurs des États de la côte Est ont décrété l'état d'urgence et pour certains ordonné l'évacuation des populations. Matthew détient le record de longévité en catégorie 4 et 5 dans les Caraïbes. C'est aussi le premier ouragan en 9 ans à atteindre la catégorie 5, le maximum dans l'Atlantique, et le premier de catégorie 4 à passer sur Cuba. Il est aussi en passe de ravir le record de longévité en majeur dans l'Atlantique.
L'ex-premier ministre portugais Antonio Guterres est sur le point de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU. En vote informel du Conseil de sécurité aujourd'hui, penche à M. Guterres comme le candidat favori. Et selon l'ambassadeur russe Vitali Churkin, il pourrait être élu dès demain jeudi.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, se rendra jeudi à Moscou et vendredi à Washington. Il cherche à pousser un projet de résolution sur un cessez-le-feu à Alep. Ce déplacement de M. Ayrault intervient dans un contexte tendu en raison de l'offensive lancée par Damas et son allié russe sur la deuxième ville de Syrie. La Russie ne soutient pas ce projet qu'elle considère comme politisé, mais Moscou n'a pour autant annoncé officiellement qu'elle mettrait son veto.
Leur aide aérienne de la coalition contre le groupe État islamique a tué 21 combattants de tribus sunnites alliés aux forces gouvernementales irakiennes près de Mossoul. Un responsable américain a retenu la bavure.
L'armée israélienne a frappé aujourd'hui plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza. C'est en réponse à un tir de roquette sur la ville frontalière de Sderot dans le sud d'Israël.
Plus de 10 600 migrants ont été secourus en 48 heures en Méditerranée. Malgré la multiplication des navires de secours au plus près des côtes libyennes, le rêve d'Europe reste extrêmement dangereux et meurtrier. Depuis le début de l'année, la Méditerranée a englouti au moins 3 500 personnes.
En Afghanistan, la population fuyait aujourd'hui des combats persistants dans et autour de Kunduz, dans le nord du pays. Elle manque aussi de vivres. Cette nouvelle offensive des talibans vaut aux autorités de vives critiques de la part des responsables provinciaux. Ils les accusent de négligence au détriment de la population.
Les Chinois considèrent les États-Unis comme la principale menace visant leur pays. 52% d'entre eux soupçonnent l'Amérique de vouloir empêcher la Chine de devenir aussi puissante que Washington. Selon un sondage publié ce mercredi, les sondés ont cependant une vision contrastée des États-Unis. 50% déclarent en avoir une bonne opinion, le taux grimpant à 60% chez les 18 à 34 ans.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
La Côte d'Ivoire prévoit d'investir près de 900 millions d'euros dans des infrastructures de transport et de stockage de produits pétroliers afin de devenir le plus grand marché de produits pétroliers d'Afrique subsaharienne, a annoncé le ministère ivoirien de l'énergie dans un communiqué diffusé hier. La compagnie chargée du stockage va investir 420 milliards de francs CFA pour se doter d'ici 2020 de capacité de réserve de 1,5 million de mètres cubes. Au Cameroun, une société américaine et deux françaises, le RTE et Nodalis, vont accompagner la mise en service de la toute nouvelle Société nationale de transport de l'électricité, la Sonatrel, annonce un communiqué du RTE publié le 3 octobre dernier. L'objectif est de moderniser la distribution, le maillon faible du secteur de l'électricité dans le pays. Ce projet s'étendra sur un an et se déroulera en deux phases. Sonatrel s'apprête à signer avec la Banque mondiale d'ici fin décembre les documents relatifs à la mobilisation de 375 millions de dollars nécessaires à la première étape du projet. Après 4 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré ce mercredi une ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti, avec pour ambition d'accélérer la croissance de l'industrie manufacturière éthiopienne et de booster les échanges avec le voisin djiboutien. Longue de 750 km, cette ligne, qui ne sera pleinement opérationnelle que dans un mois, a été financée et construite par la Chine.
Voilà, c'est le rythme des sports. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Oui, vous signez ce soir la chronique sportive. On commence avec Rigobert Song, qui est finalement transféré vers la France.
Oui, soigné depuis dimanche à Yaoundé suite à un AVC, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été évacué vers la France. Selon nos confrères de Foot Africa, c'est sous les yeux d'une grande foule venue lui apporter son soutien que Rigobert Song a été transféré de Yaoundé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. L'ancien défenseur et actuel sélectionneur de l'équipe A est sorti du coma et se porterait mieux. Et son état inciterait à l'optimisme selon ses proches.
Oui, en même temps, son équipe se trouve en France. Les Lions Indomptables ont livré un match amical avec l'OM.
Oui, un but partout lors de ce match à huis clos, ce mercredi au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. L'ouverture du score a été camerounaise. Elle est intervenue par Vincent Aboubakar à la 28e minute sur pénalty. L'OM où Lassana Diarra a joué 68 minutes pour la première fois depuis plus d'un mois, a égalisé à la 34e minute par Ronaldo.
Oui, qualification mondiale 2018 Amérique du Sud. La pression sur l'Argentine sans Messi.
Oui, l'Argentine doit se reprendre au Pérou sans Messi après son nul chez la lanterne rouge vénézuélienne au sein d'un trio de tête composé par l'Uruguay et le Brésil qui a l'occasion demain jeudi de se détacher en tête de ce groupe. Les trois premiers affrontent les trois derniers, mais seule l'Argentine jouera à l'extérieur et ce sera encore une fois sans son capitaine Lionel Messi blessé. La dernière fois, on se souvient, le voyage s'était mal passé pour l'Albi Céleste avec un 2-2 humiliant au Venezuela face au traditionnel petit poussé régional qui avait même mené 2-0.
Le pape s'insurge contre la corruption et la manipulation dans le sport.
Oui, c'est un peu de morale. Le pape François a appelé mercredi le monde sportif à contrecarrer toute forme de corruption et de manipulation. C'était lors d'une cérémonie donnant le coup d'envoi à une conférence de 2 jours au Vatican consacrée au lien entre la foi et le sport. Le pape a estimé que le défi, c'est de maintenir l'honnêteté dans le sport, de le protéger contre les manipulations et les abus commerciaux.
Oui, merci Bagassi. On ne peut pas gagner sans la foi, n'est-ce
voilà,
pas?
Voilà, merci bien. Il faut y croire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guerriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale à Côte d'Ivoire.
Oui, le président Alassane Dramane Ouattara a présenté son projet de nouvelle constitution, fondatrice d'une troisième république ivoirienne devant les députés de son parlement. Fernand Julien Goz, président de l'ONG ivoirienne Agir pour la démocratie, a livré à Anastasie Toudièche sa lecture.
Le président de la République, exerçant ses prérogatives constitutionnelles, a pris l'initiative donc d'enclencher ce processus de réforme, appuyé sur un collège d'experts de juristes de renom, des gens que tout le monde connaît et qu'on respecte pour ce qu'ils connaissent enfin pour leur science. Il les a réunis comme beaucoup plus de techniciens que des spécialistes, des questions qui sont abordées au quotidien par les religieux, les leaders communautaires, la société civile, etc. Et donc, définitivement, les partis politiques ne se sont pas concernés. La société civile a essayé de faire des plaidoyers pour se faire entendre. Est-ce qu'elle a été vraiment entendue? Quant aux autres groupes, c'est le silence radio parce que peut-être les canaux de communication n'ont pas permis que ces groupes-là s'expriment. Quand on regarde le texte qui a été proposé et dont les premières moutures ont circulé sur les réseaux sociaux, je vous que tout le monde a dû se rabattre sur les réseaux sociaux d'abord pour avoir connaissance sur ce texte. À titre strictement personnel, je me suis vraiment attardé sur les mécanismes ou les processus qu'on a mis en place pour marquer la séparation des pouvoirs. Et j'ai été quand même un peu surpris de voir qu'au finish, le texte nouveau renforce davantage que le précédent, les pouvoirs du président de la République, les prérogatives. Tout est mis sous la coupe du président de la République. Il n'est plus le président per se, mais c'est lui qui nomme le président. C'est-à-dire donc, il délègue son pouvoir en quelque sorte. Et c'est ce président du Conseil supérieur de la magistrature qui gère donc la carrière des magistrats pour ce qui concerne les sanctions, etc. Donc, c'est-à-dire le président lui-même directement. Ensuite, il y a la Cour suprême. La Cour suprême est présidée par une personnalité nommée par le président de la République. Sans aucun contrôle, le Sénat est composé, d'après le texte, de membres dont un tiers sont nommés par le président de la République. Donc, il va contrôler le Sénat.
Quel recours ont les opposants à ce texte, comme les opposants politiques à Alassane Ouattara?
Alors, le recours légal, je ne sais pas s'ils en ont véritablement, puisque une fois que le texte passera à l'Assemblée, c'est voté par l'Assemblée, dans les heures qui suivent, le président va le promulguer. Légalement, il n'y a plus aucun recours.
Fernand Julien Goz, président de l'ONG ivoirienne Agir pour la démocratie.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'Afrique a-t-elle connu des progrès depuis 10 ans en matière de gouvernance globale? La Fondation Mo Ibrahim répond oui. Amélioration notamment au niveau du développement humain, des droits de l'homme, du climat des affaires et de la lutte contre la corruption. Mais les Africains sont moins en sécurité qu'il y a une décennie, d'après un rapport de la Fondation. Y a-t-il eu effectivement des progrès dans votre pays? Votre quotidien s'est-il ainsi amélioré? Ou au contraire, les questions de sécurité ont-elles pris le dessus sur de tels progrès? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi, à 19h10.
Au Tchad, poursuite de la grève des fonctionnaires, étudiants et enseignants, qui a été raillée par le secteur privé lundi. La Confédération libre des travailleurs du Tchad, centrale syndicale la plus proche du pouvoir, s'est joint au mouvement, revendiquant des arriérés de salaire. Nathalie Barge a joint le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Said, qui a déposé un mémorandum rejetant certaines mesures d'austérité préconisées par le gouvernement.
Les mesures que nous rejetons, les mesures concernant le 80% de réduction des indemnités de tous les décrétés, le gel des bourses des étudiants, la suspension des primes des enseignants de supérieurs. Or, pour réduire quelque chose sur le budget national, sur le budget, il faut avoir une loi rectifiant cette loi pour pouvoir prévoir dans cette loi, pour pouvoir le prélever. Or, le gouvernement n'a pas prévu, donc c'est anticonstitutionnel. La loi des finances est la seconde loi après la Constitution. Donc, tout ce qui est dans la loi, on ne peut pas la modifier par un décret. Il faut une loi pour la modifier.
Il y a également des mesures qui, vous dites, méritent d'être corrigées.
Quelles sont ces mesures?
Les mesures qui doivent être corrigées concernant la réforme de la Honor TV, concernant la fusion de la jeunesse sport avec le tourisme qui doit être revu, concernant le ministère de l'Agriculture avec plusieurs entités qui doivent être aussi revues avant de les dissoudre ou avant de les faire partir, puisque c'est là qu'ils embrassent des milliards qu'ils ont gérés. Donc il faut qu'on sache la situation réelle de leur gestion avant qu'on puisse les dissoudre.
Alors est-ce que les autres principaux syndicats, notamment l'UST et la CIST, sont d'accord avec vous sur les mesures que vous acceptez, celles que vous rejetez?
La centrale syndicale est indépendante et selon sa vision, puisque nous, notre vision, nous pensons qu'il faut les accepter, qu'ils sont salitaires. Le fait que le gouvernement réduise son train de vie, c'est salitaire. Le fait que le gouvernement prenne un recensement des maîtres communautaires qui n'ont pas perçu leur service depuis 28 mois, c'est un signe salitaire. Le fait que le gouvernement fasse contrôler les faux diplômes, tout ça, c'est nécessaire. Et même concernant l'évaluation des douanières pour certaines entreprises qui ne font pas du social et qui profitent à personne. Donc tout ça, c'est des choses qui sont acceptables. Si le gouvernement même veut réduire son train de vie avec un parc auto qui n'est pas raisonnable, moi je pense qu'il faut accepter. Comment vous acceptez que 5 milliards de consommation d'essence par mois ou 1 milliard 700 millions pour les réparations du véhicule? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Nous acceptons cela. Ça, c'est le sens immédiat, rapidement, pour qu'on puisse avoir de l'argent dans la caisse de l'État.
Est-ce qu'il y a des membres du gouvernement qui approuvent votre mouvement?
La plupart des membres du gouvernement approuvent. Ils sont politiques, ils ne peuvent pas s'exposer, mais 80% de réduction de leur indemnité ne peut rien dire, mais ils approuvent ça. Qui peut accepter 80% de réduction de ces indemnités? Même les députés n'accepteront pas ça. Même les députés les disent, 50% à leur niveau, mais ils les font à contre-cœur.
Voilà, c'était Brahim Ben Said, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, joint à N'Djamena.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, l'espérance de vie est d'environ 50 ans. Peu de personnes atteignent l'âge de 100 ans pour vivre longtemps. Certains ont accepté, partagé leurs expériences et encouragent les autres à réduire leur consommation d'alcool, de cigarettes et autres pratiques nuisibles pour la santé. Le reportage d'Omoki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
La centenaire Jacqueline Ada, affectueusement appelée Mama, confie en langue Ewondo aux personnes rassemblées à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé que le Sénat l'a toujours protégée, car elle est née il y a plus d'un siècle. Elle va plus loin en disant que ses parents n'ont pas enregistré sa naissance, mais reconnaît avoir plus de 100 ans. Ses souvenirs remontent entre 1914 et 1922, lorsqu'en discutant avec les missionnaires catholiques suite à la demande en mariage de son défunt époux, il lui est conseillé que le pape Benoît XV demande aux chrétiens d'être baptisés avant le mariage. Maman a eu la chance de vivre jusqu'à cet âge. Les personnes âgées au Cameroun n'ont pas accès aux soins, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par l'assurance. Minjama, 73 ans, explique que la plupart d'entre eux ne perçoivent pas leur pension aussitôt qu'ils sont retraités.
L'autre jour, j'étais à un hôpital, on m'a demandé qui s'occupe de moi. Je lui ai dit que je n'ai personne. Je n'ai pas d'assurance maladie. Dans les familles, la personne âgée est considérée comme une personne à négliger, qui ne sert plus à rien. Dès que vous êtes déjà vieux, on dit que vous êtes un sorcier.
La majorité des personnes âgées sont abandonnées à eux-mêmes et à leur famille. Albert Fouda s'occupe de sa mère âgée de 80 ans.
La situation de maman est très difficile. On a essayé de trouver les moyens pour essayer de trouver la solution. Nous sommes allés à l'hôpital général où le médecin a fait le scanner. Il nous a fait comprendre qu'il fallait une somme de 1 million pour l'opération. Maintenant, pendant que nous sommes 1 million, la tumeur s'est infectée. À la maison, la situation est très difficile parce qu'il faut subvenir aux petits besoins. L'infection qu'elle ne peut guérir que si on opère la joue.
D'après Bibéhe Pierre, un responsable du ministère des Affaires sociales qui s'occupe des personnes âgées, le gouvernement camerounais va mettre sur pied des lois sur la protection des personnes âgées.
Vous aurez remarqué que nous semblons un peu surpris par le vieillissement. Il a toujours été là, mais aujourd'hui, on semble désemparé parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Il est question dans ce plan d'action d'essayer de voir l'avenir, même dans 20-30 ans, à quoi pourrait ressembler notre pays et à quoi pourrait ressembler l'encadrement des personnes âgées.
La division de la population des Nations Unies estime que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de la soixantaine va passer à 2 milliards dû à l'amélioration de la qualité des soins qu'ils vont bénéficier. Et 80% d'entre eux vivront dans les pays en voie de développement. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Présidentielle américaine 2016, le débat entre les candidats à la vice-présidence, le républicain Mike Pence et le démocrate Tim Kaine, a porté autant sur la substance que la forme. Timothée Donong-Mai.
Et oui, Morgan, à 4 jours du deuxième débat entre les candidats à la présidence, leurs colistiers se sont affrontés mardi soir à Farmville, en Virginie. Et pour la première fois, les électeurs américains ont eu droit à une discussion sur les programmes politiques que Donald Trump et Hillary Clinton mettront en œuvre si l'un ou l'autre est élu à la Maison-Blanche, a fait remarquer John Hudak, chercheur principal à la Brookings Institution, un cercle de réflexion de Washington. Selon lui, c'est un net contraste avec le premier débat entre les deux candidats à la présidence, un débat qui était axé sur les attaques personnelles et les scandales. Tim Kaine et Mike Pence ont fait le tour des dossiers domestiques et internationaux, allant de la politique fiscale à la situation en Syrie, en passant par la manière dont les États-Unis doivent confronter le président russe Vladimir Poutine. À plusieurs reprises, le colistier d'Hillary Clinton a tenté de forcer Mike Pence à défendre son candidat Donald Trump sur divers sujets, notamment ses propos controversés sur les immigrés mexicains, les femmes ou encore son refus de publier sa feuille d'impôt sans grand succès. Je ne peux pas imaginer comment le gouverneur Pence puisse défendre le style basé sur les insultes et sur le moi d'abord de Donald Trump, a fait savoir le candidat à la vice-présidence démocrate Tim Kaine. Et le candidat républicain à la vice-présidence a évité le piège ainsi tendu et il a refusé de directement commenter les prises de position de Donald Trump, mais a plutôt accusé la campagne adverse de recourir à une avalanche d'insultes. La modératrice du débat, Elaine Quiano, a souvent dû intervenir pour appeler à l'ordre Tim Kaine et Mike Pence et les sommer de parler chacun à son tour.
Et pour de nombreux observateurs, le gouvernement républicain de l'Indiana, Mike Pence, a remporté le débat tout simplement en gardant son calme, Tim.
Les républicains soutiennent que le démocrate Tim Kaine paraissait excessivement préparé et pas naturel dans ses interventions. Pour ces républicains, préoccupés par les difficultés de Donald Trump au premier débat, la prestation du gouverneur Mike Pence avait quelque chose de rassurant et pourrait aider à mobiliser l'électorat. Les démocrates estiment de leur côté que leur candidat a accompli sa mission en forçant son adversaire à refuser de défendre Donald Trump. Les deux camps reconnaissent toutefois que les seuls débats qui comptent sont ceux opposant les candidats eux-mêmes et qui se feront face à nouveau le 9 octobre à Washington University de Saint Louis dans l'État du Missouri.
Merci Tim.
Trump is simply unfit to be president.
I may win, I may not win. Hillary, that's not a president.
Hillary Clinton face à Donald Trump, une couverture complète de la course à la Maison Blanche. C'est sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnou a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Eden à la console.
Présentation Morgane Guériec et Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 900 000, on maintient la conversation.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.